Il est 6h21 et à la veille du palmarès à Cannes, on va parler cinéma, nous aussi, cap non pas sur la croisette, mais sur Hollywood, avec notre invité Pierre Conessa. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans le 5-7 de France Inter. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions géopolitiques, et vous publiez chez Robert Laffont, Hollywood, Hollywood, arme de propagande massive. Alors d'abord, ce terme de propagande, tout de suite, on pense plutôt à Goebbels, aux nazis et au totalitarisme en tout genre, plutôt qu'à Hollywood. Vous nous dites, Pierre Conessa, que depuis le début du ciné, Hollywood est un média politique.
Oui, parce que nos sociétés ont inventé simultanément la propagande et la publicité. La publicité, vous savez, c'est de la propagande commerciale et la propagande, c'est de la publicité politique. Les méthodologies sont les mêmes, etc. Ce qui différencie fondamentalement la propagande version Goebbels, si vous voulez, la propagande version Hollywood, c'est que, comme dans toutes les dictatures, la propagande valorise le chef. Le système, le chef, etc. Tandis qu'à Hollywood, c'est l'individu, c'est-à-dire le héros jacksonien. Vous savez, cet individu qui va s'opposer à la structure, à ses chefs, etc., mais qui finalement aura raison. Donc c'est une espèce de propagande individualiste, et c'est vrai que c'est une des qualités de la société américaine. Mais ça reste un système dans lequel la base idéologique, c'est que vous avez la chance de vivre dans la meilleure des sociétés du monde, et donc l'autre ne peut être qu'un envieux, une menace, un risque, un ennemi.
Oui, ce ne sont pas les bons films qui font l'opinion américaine, dites-vous tout de suite, hein, on ne va pas parler de cela. C'est la masse de mauvais films, sans aucun second degré. Vous en avez donc épluché plus de 3000, des films de guerre pour la plupart, Pierre Conessa.
Je n'ai pas épluché les 3000. Hein. Comme dit une humoriste anglaise, elle disait, je ne dis pas que tous les westerns se ressemblent, je dis simplement que quand on en a vu beaucoup, on a l'impression d'avoir vu un seul. Bon, et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est cette répétition qui fait que vis-à-vis du public américain, qui reste un public très fermé sur l'extérieur, contrairement à ce qu'on pense, vous savez que la moitié des parlementaires américains n'ont pas de passeport. Hein. Bon. Et donc, cette espèce de rapport avec l'autre a cette particularité de formater l'idéologie dominante américaine. Vous savez, mon propos est parti d'un constat, vous avez vu comme moi aux États-Unis le nombre de drapeaux qu'il y a partout, sur les barbecues, sur les voitures, sur les toits des maisons, etc. Et donc, je me disais, comment peut-on être si fier d'une identité nationale qui a quand même été raciste, qui a quand même été esclavagiste, qui a quand même été génocidaire, qui a été ségrégationniste aux années 60 et qui reste encore raciste plus impérialiste, mais ça c'est une constante. Bon. Je rentre dans une librairie, je dis je voudrais voir vos manuels d'histoire. Et le type me dit mais il n'y a pas de manuel d'histoire parce qu'il n'y a pas de ministère de l'éducation nationale. Chaque État est libre de faire son enseignement. Et donc je me suis dit, mais finalement, qui fait le récit national américain si ce n'est Hollywood? Et parce que c'est le seul média culturel qui couvre la totalité du pays et qui reconstruit l'histoire. C'est ça l'extraordinaire génie d'Hollywood, c'est que d'abord de prendre des scénaristes qui ont des moyens immenses, hein, effectivement, et puis cette capacité à prendre ses distances avec la réalité historique, mais qui est une espèce de distance aussi grande que la propagande à l'égard de la réalité de l'Union soviétique ou du régime nazi.
Alors, effectivement, vous dites que la société américaine est convaincue de cette supériorité, hein, c'est ce que vous venez de dire, et que du coup, elle doit sans cesse réinventer un ennemi pervers, guidé par l'envie, la jalousie ou la volonté de destruction. D'abord, pourquoi ce besoin?
D'abord, c'est un élément du ciment national. Hein. Vous connaissez les thèses de Carl Schmitt qui dit que la fonction du politique, c'est de définir l'ennemi. Bon. Là, en l'espèce, on a effectivement un politique, mais surtout un média culturel qui a solidifié, si vous voulez, ce processus d'intégration dans cette société multicouche qui est la société américaine, en faisant cette espèce de bizutage cinématographique. C'est-à-dire que si vous reprenez l'histoire du cinéma, et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pas de le voir comme un cinéphile en disant qu'est-ce qu'il y a comme bon film à Hollywood, mais dire qu'est-ce qu'il y a comme mauvais film à Hollywood. Parce que c'est la masse de ces mauvais films qui font l'opinion. Et donc, si vous voulez, vous avez eu dans l'histoire les Noirs, parce qu'on sortait de la guerre de sécession, et en gros, la thématique, c'est ces gens-là valaient-ils la peine qu'on se batte? Bon. Et donc, il y a des stéréotypes de Noirs qui sont... Le buck, c'est-à-dire le gros type musclé qui a envie de se farcir une femme blanche. Mmh. Vous avez la nounou, etc., de Hattie McDaniel dans Autant d'emporte le vent. Le lazy, c'est-à-dire le noir qui veut rien faire, qui joue du banjo sur le bord du Mississippi, enfin bref. Et puis, dans toutes les autres catégories, c'est-à-dire après le noir, vous avez le rouge, 2700 westerns quand même. Mmh. Ensuite, vous avez eu le jaune étant une espèce générique, parce qu'il est à un moment manchou. Fu Manchu, puis ensuite il devient chinois, puis ensuite il devient japonais pendant la guerre, après il devient coréen, après il devient vietnamien, mais si vous voulez, c'est toujours pareil.
Perfide.
Le perfide. Mmh. Ah ben lui, il est pareil. On dirait qu'il a une cave dans laquelle il fait que de la torture, par exemple, si vous voulez. Ensuite, après le jaune, vous avez toujours eu le basané étant une espèce de variante sud-américaine, mexicaine dans un cas, puis ensuite colombienne, etc.
Trafiquant. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant, vous citez par exemple le trafic de Soderbergh, on retrouve cette caricature même dans ce bon film.
Ah oui, oui, absolument. Ben, il faut que, si vous voulez, à l'écran, en tout cas jusqu'à la guerre, la couleur de peau était une identification du méchant. Bon, ça reste une société fondamentalement raciste. Et à partir de la guerre, et en particulier à partir du nazisme et du communisme, vous avez un problème, c'est que l'ennemi devient un blanc. Mmh. Et donc c'est la naissance du film d'espionnage et de la théorie du complot. C'est-à-dire, attention, l'ennemi est parmi nous.
Donc évidemment les James Bond, etc.
Oui, par exemple les James Bond, mais surtout l'attitude d'Hollywood à l'égard du régime nazi est très intéressante parce que l'Allemagne était le plus gros marché d'exportation d'Hollywood avant-guerre. Donc Goebbels, qui avait une certaine intelligence politique, avait dit aux producteurs américains, si vous faites un film contre le régime, j'interdis tous les films américains. Une menace comme celle-là, on y réfléchit. Et ça vous explique que pratiquement jusqu'à ce que Charlot fasse le dictateur, il n'y a pas eu de film anti-nazi. Alors après, une fois qu'on était entré en guerre, si vous voulez, à la limite, même le problème d'Hollywood, quand Hollywood est entré en guerre, c'est que, ayant été attaqué au Pacifique par les Japonais, il fallait expliquer par Hollywood qu'il fallait aussi faire la guerre sur le théâtre occidental, parce qu'effectivement, là, il y avait les Allemands, mais on ne les avait jamais traités comme des ennemis. Et donc, il a fallu rétro-pédaler, si vous voulez, pour reconstruire un ennemi allemand, et ainsi de suite.
Aujourd'hui, il y a le Frenchie aussi, hein, depuis le refus de Chirac d'entrer en guerre en Irak, Lambert Wilson dans Matrix, Gaspard Ulliel dans Hannibal Lecter, le Frenchie toujours un peu lâche. Il y a aussi l'arabo irano-terroriste, ça, c'est une variante.
Le Frenchie, c'est une espèce d'inconnu pour Hollywood, c'est-à-dire que avant-guerre, ou plutôt à l'époque de la guerre, le Frenchie devient un collaborateur. Mm. On le voit dans Casablanca, etc. Mais il y a une espèce de faiblesse coupable à l'égard de la Légion étrangère à Hollywood. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup aimé cette idée de la Légion étrangère où des hommes vont faire la guerre parce que c'est une cause perdue, etc. Et vous avez des films extraordinaires comme par exemple Beau Geste, dans lequel Gary Cooper est cette espèce de légionnaire. Vous savez, vous vous souvenez de la chanson Mon Légionnaire ? Avec Marlène Dietrich qui tombe amoureuse de lui. Et la scène finale, c'est Gary Cooper partant en patrouille dans le désert, parce que comme vous le savez, en Algérie, tout est désert, n'est-ce pas ? Il part en patrouille et Marlène Dietrich ôte ses souliers à talons pour le suivre. Bon. Alors ensuite, le Frenchie, évidemment, pendant le French bashing, alors là, ça a été du délire absolu.
Et puis l'arabo terroriste, forcément, aussi, aujourd'hui, un peu partout. Aucun autre système de production ciné ne pourrait faire naître des films aussi sectaires et racistes sans être qualifié de propagande. Pourquoi Hollywood passe entre les gouttes ?
Probablement à cause de la veulerie de notre regard, c'est tout. Moi, je me trouve face à des gens qui me disent « Comment osez-vous critiquer Hollywood ?» Je vous dis, j'ai l'impression d'être dans la position de Martin Luther critiquant les indulgences, c'est-à-dire des gens qui me disent « Mais enfin, vous êtes en train de critiquer la papauté. » Je vous prends un exemple très simple, Rambo 2. Rambo 2, vous savez, c'est le cas où tout à coup, l'ancien combattant redevient un combattant.
Stallone revient au Vietnam 11 ans après.
Stallone revient au Vietnam, il va libérer des pilotes que, évidemment, ces salauds vietnamiens n'ont jamais libérés. Dans ce film, il tue 76 personnes. Je les ai comptées, c'est pénible comme exercice. Eh ben, imaginez qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie. Un ancien combattant d'Algérie qui retourne en Algérie, qui tue 76 Algériens, vous imaginez le scandale politique que ça fait. Donc c'est bien notre regard qui pose problème.
Après, ce sont beaucoup de films qui n'ont pas traversé l'Atlantique aussi, on terminera là-dessus.
Ah oui, alors absolument, c'est-à-dire que nous avons la chance de n'avoir que le meilleur d'Hollywood. C'est peut-être pour ça que les cinéphiles adorent tant Hollywood. Moi, je suis plutôt un géopoliticien, donc si vous voulez, j'ai plutôt tendance à regarder le cinéma d'Hollywood, le cinéma arabe, le cinéma iranien, etc.
Et ce cinéma américain d'Hollywood a imprégné les mentalités américaines ?
Complètement, complètement, puisque si vous voulez, toute la vision du héros américain, la principale difficulté de la société américaine, c'est qu'elle n'a jamais connu la guerre sur son territoire. Donc elle ne sait pas ce que c'est qu'une ville rasée, elle ne sait pas ce que c'est qu'un point d'eau, elle ne sait pas. Et donc le rapport à la guerre a toujours été médiatisé par Hollywood, ce qui fait que vous pouvez produire du héros en quantité.
Pierre Conessa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans le 5-7 de France Inter. Je rappelle le titre de votre livre, Holy War, publié chez Robert Laffont. Au revoir, bonne journée à vous.